Hey, salut tout le monde, Tommy Godette au micro, bienvenue à Terrain Basique, 9e épisode. Salut Jason.
Bonjour, bonjour.
Hey, as-tu vu aujourd'hui la faune qui est avec nous autour de la table? C'est un petit peu différent d'habitude. Ben oui, c'est ça. D'habitude, on a Andy et son attitude, et cette fois-ci, on a plutôt François et son Martin. Salut François.
Salut les magiciens.
Ben oui, salut magicien, toi aussi. François Lompré qui s'occupe de la page Terrain Basique Facebook avec nous beaucoup.
Oui, oui, j'essaie de produire des mimes autant que mon imagination le permet.
À date, je pense que t'as un excellent rythme, lâche pas, on est bien content de ça. Puis il y a Martin qui remplace Andy à la console, on t'a donné un micro, Martin, on veut t'entendre, là, voyons donc. Chef de production podcast et technicien extraordinaire, guitariste pour les excentriques, tu t'occupes aussi du carré rond.
Allô?
Allô?
Ça va bien?
Ça va super bien, content okay,
ben,
de t'avoir avec nous.
Tu m'as pas dit que je rentrerais, fait que je fais mon soundcheck en même temps. Mais oui, ça va super bien. Oui, je suis guitariste des Excentriques. Oui, je suis à la barre de production podcast et du carré rond. Et ça me fait bien plaisir d'être avec vous, mais je ne comprendrai rien du tout de ce que vous direz.
Ben, en fait, la lutte est magique. Il y a plusieurs parallèles qui peuvent s'associer. Je pense que tu seras pas dépaysé.
C'est deux duels, la lutte et magie.
C'est ça. Ceux qui sont d'accord, écrivez-nous.
Et le Meta Magic, hein, bien sûr, il y a tout le temps une question d'attitude, parce que la game de Magic n'est pas que sur la table ou dans les mains des gens, elle est aussi dans le cœur, dans l'attitude. Faut pas se laisser avoir, faut rebondir, tu sais, comme le speech de Rocky à son fils.
La gang, c'est la gang.
La gang, c'est la gang. Ben merci d'être avec nous, Martin, pour cette session d'enregistrement. Sinon, ben on commence tout le temps avec un petit sujet un petit peu plus intime, personnel. On va en profiter, François est là. On va parler des mimes qu'on a sortis sur notre page Terrain Basique. Moi, j'en ai fait 2-3 à date.
Oui, grâce à moi, en fait, t'as fait ton premier officiel.
Oui,
hein?
Oui, oui, parce que
ça a levé pas mal, d'ailleurs.
Ben mon Pikachu, là.
Ben, oui.
c'est le mime de Pikachu qui se demande ce qui se passe, là.
Oui, oui.
C'est ça, le premier, moi, je sors un gros monstre super fort, plein de trample puis de power. Puis là, le deuxième, tout le monde dit, OK, tout sur lui. Puis là, ben, tu mets la photo du Pikachu qui est surpris après.
Mm. Il y a mon adaptation de Captain Phillip avec Tom Hanks. Où
oui.
J'ai remplacé, j'ai mis... que le Captain Phillip sort un M-Racule qui a pogné pas mal aussi. Là,
ouais.
Ça, c'était drôle.
Un petit M-Racule. Je n'ai... Oh là là
la carte
là.
Qu'il ne faut pas jouer.
Eh ben, tu vois, en tout cas. Qu'il ne faut pas jouer en un loop facile avec un Chaos Cradle. Puis des... Non, merci.
C'est ouais, on en parlera un jour dans un autre.
C'est
épisode.
Sûr, les Eldrazi, c'est quand même une menace qui pèse. Sinon, ben, vous avez peut-être vous aussi vos mimes préférés. C'est une manière, on les veut toutes, nous. On veut avoir une communauté solide, créative. Et toi, t'as trouvé un site pour faire des mimes?
Oui, je pense que c'est imgur.f. quelque chose, mais...
Vous googlez Meme ouais, Generator, c'est
ouais,
le premier choix qui sort sur Google.
Et voilà. Puis c'est très bien fait.
Oui, on peut même rajouter des images pour ensuite mettre le lettrage qu'on veut après. Là. C'est super facile pour utiliser.
Ouais.
Et voilà.
Vous inondez votre famille
ouais.
de mimes.
Toi, t'as-tu comme une méthode pour faire ça?
Ben souvent, en fait, je regarde des images, puis là, à un moment donné, je tombe sur une image qui m'inspire, puis je rajoute... De quoi? De salty un peu, là?
Ah oh oui, non. Des fois, c'est genre... je suis en train de faire la vaisselle, puis j'ai une idée, là.
Ah oh ouais.
Puis là, je suis comme je dis à ma blonde, là, un instant, j'ai eu une idée, puis...
Ah oh ouais, t'arrêtes la vaisselle pour aller faire ton mime.
Je fais mon mime.
Comme
c'est
lui,
ça,
moi.
La culture des mimes, hein? C'est, oh ouais. c'est la priorité.
OK, faut pas que tu combattes la créativité quand elle arrive.
Non, parce que tu vas oublier ton idée, puis souvent, la communauté a perdu une opportunité.
Et voilà.
C'est souvent quelque chose de bien punché, fait que faut vraiment le marquer tout de suite.
Ouais. Sinon, ça peut... Ouais, ouais, puis souvent, c'est une petite tourneur de phrase seulement. Il y a Christian Charbonneau qui en a fait des très beaux aussi. On remercie tous les collaborateurs qui nous aident à peupler cette page-là.
Jacques aussi, vendredi passé, là, c'est avec Jackie Chan. Chan qui se plaint que les autres joueurs... parce qu'on a tous vu ça, là, quand tu joues à Magic ou à Commander en multiplayer, t'as tout le temps un joueur qui suit pas à game parce qu'il est sur son téléphone. Là.
Je suis coupable.
Ouais, puis là, quand arrive son tour...
là, il pose des questions.
Il sait pas ce qui se passe.
C'est quoi cette carte-là? Ben, je viens juste de l'expliquer. Ouais. Ah, je peux-tu l'aller? Ben, tu...
je sais qu'il y a un créateur de Magic qui avait dit dans un... Je pense que c'est... j'ai oublié son nom là, mais Aaron Forsythe, c'est un des créateurs à Magic.
Okay.
Il appelait Commander, c'est. Quand tu joues à Commander, dans le fond, il appelait ça le cell phone Magic. Parce que les tours de Commander, c'est tellement long, puis
okay.
tellement. Fait que si tu joues à Commander à 4 ou plus, c'est pas souvent ton tour de jouer. Puis là, c'est là que c'est tentant d'aller checker sur Facebook, des memes sur Terrain Basique.
Ou quand il est 20h, c'est juste s'endormir.
Ouais.
Sinon, ben, on veut votre apport, tout le monde qui entendait ça. Merci beaucoup de nous suivre. On est déjà à notre 9e épisode et on aime beaucoup comment ça monte. Et c'est quand même un sujet assez stimulant que celui de Magic. Fait que, ben, venez aider à peupler ça avec nous. Merci beaucoup, ce qui nous amène tranquillement pas vite à notre carte de la semaine. On écoute le beat.
Donc, à la carte de la semaine, on va aller cette semaine, on va aller dans moderne, dans le format moderne. Vous savez, présentement, les gens, ils jouent beaucoup de stratégies de Graveyard, vous l'avez sûrement remarqué. Guild of Ravnica avec la carte Arclight Phoenix ou les cartes des Golgari là, qui comptent sur le Graveyard.
Ben oui, il y a le nouveau gros démon, là, qui, c'est 6 qui coûte 5, là, que tu peux surveil 2 pour 2 HP.
Oui, mais c'est surtout là, dans moderne, là, c'est les decks de Dredge qui sont très forts grâce à ça. Puis,
que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Oui, juste pour nos auditeurs, la stratégie de Dredge, c'est une mécanique qui était dans le premier set de Ravnica. Donc si une carte a un dredge de 2, ben quand cette carte-là est dans ton graveyard, tu peux prendre 2 cartes sur le top de ta librairie, les mettre dans le graveyard, ramener ta carte de dredge dans ta main et tu sais, dans le fond, le deck est bâti sur remplir ton graveyard de cartes de dredge, ton graveyard devient ta main. Donc c'est rendu très fort, c'est ce qui domine en moderne présentement. Aussi les decks avec Arclight Phoenix, c'est un phoenix dans Guild of Ravnica. Si tu castes 3 s'il est dans ton graveyard, tu castes 3 instant ou 3 sorcery, tu peux le ramener directement en jeu. Il y a haste, c'est très 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 fort, c'est ça qui domine présentement. Donc il y a une carte qui est revenue en force que je suggère, c'est Ravenous Trap, une uncommon qui nous revient du fin fond de Zendikar, sorti en 2009. Ravenous Trap, c'est un instant, 2 colorless, 2 noirs. Si ton adversaire a mis 3 cartes ou plus dans son graveyard ce tour-ci, tu peux payer Ravenous Trap pour 0. Puis ce que ça fait, c'est que tu exiles toutes ses cartes dans son graveyard. Donc, ouais, c'est
de l'amour, ça.
C'est une trap, fait que tu peux la jouer n'importe quand. Dans le fond, c'est aussitôt, là, par exemple, c'est bon, là, que des gens qui discartent leurs mains dans le graveyard ou qui se font miller. Moi, j'en joue 3 dans mon sideboard, là, puis tu peux, tu sais, vu qu'elle coûte 0, tu peux la jouer dans n'importe quelle couleur.
Ça veut pas le trigger pour que ça coûte 0, 3 cartes dans le graveyard.
Ça arrive souvent en ce moment.
Ça arrive assez souvent. Là, si l'autre, il joue 2 spells, puis là, il sacrifie une affaire ou tu peux lui péter quelque chose. J'ai beaucoup aimé, moi aussi, parce que là, on parle de Ravenous Trap, parce qu'effectivement, on a de plus en plus besoin d'une réponse au graveyard de l'adversaire. Mais j'ai beaucoup aimé la dynamique des traps. Il y en avait pas mal dans chaque couleur.
Oui, c'est quand ils ont créé Zendikar, c'était ce qu'ils voulaient faire, c'était recréer un peu Donjon Dragon dans Magic.
OK.
Puis la formule de la création de Ravnica, c'était des personnages puis qui tombent dans des pièges en explorant des ruines. Fait que c'est pour ça que dans Ravnica, tu avais beaucoup de mécaniques tribales. Fait que tu sais, tu avais des vampires, tu avais des
humains,
tu avais des corps qui est un retour depuis Tempest. Et ainsi de suite. Puis tu avais beaucoup les quests. Donc les quests, c'est un enchantement qu'à chaque fois que tu faisais quelque chose, tu mettais un counter quest. Puis quand tu as autant de counters, tu peux faire ce que la carte dit. Puis tu avais bien sûr les traps qui étaient des instants qui coûtaient 0 si certaines conditions étaient remplies, comme dans le cas de Ravenous Trap.
Et voilà.
Qui est l'effondrement d'une caverne, je crois, qui est représenté sur le. Non, c'est un canyon qui est en train de
assez coulant,
c'est un
là.
Canyon qui est en train de se refermer, puis on voit un des deux personnages qui dit hey, garde, on va se faire écraser.
Une illustration de Cyril Van Der Hagen. Et voilà, merci beaucoup Jason, oui, le choix de la carte de la semaine. Sinon, on a oublié de le mentionner au début, mais c'est une de mes trames sonores de jeux vidéo préférées que vous êtes en train d'entendre en background. Ça vient de Secret of Mana au Super Nintendo. On est en 1993 ou 94. Un des seuls jeux qui se jouait à 3 au Super Nintendo. Je l'ai refait
à
dernièrement.
Oui,
ça ça se jouait à 3, t'avais besoin de l'adaptateur. Je l'ai refait dernièrement. Il paraît que le jeu a été amputé d'à peu près 40% de sa substance parce qu'il fallait que ça sorte plus vite. Et ça paraît vraiment, c'est pas un jeu qui est très très bon et qui vieillit bien, mais la trame sonore est excellente. Ce qui nous amène tranquillement, pas vite, à notre sujet maître de la semaine. On va parler format cette semaine parce que Jason, tu veux développer sur probablement le format le plus intéressant, on
pourrait
dire.
Oui, le draft.
Le draft, toi.
Toi, Frankie, tu fais beaucoup de draft?
Pas beaucoup, puis je te dirais qu'à chaque fois que j'ai essayé, j'ai... la chance m'a pas suivi ben.
Peut-être parce qu'il te manquait certains trucs.
Et voilà, ouais. on va apprendre des trucs.
Le dernier draft que j'ai fait ici, j'ai fait la gaffe de me laisser impressionner par la grosse carte que j'ai pognée au début.
Oh, t'es greedy.
Oui.
Avare,
je suis arrivé dernier.
Solide, d'abord.
T'avais fait quelle couleur?
J'étais noir-vert, mais j'aurais dû faire noir-bleu. Parce qu'en plus, c'est ça, quand le monde passait leurs cartes, il restait toujours du bleu, puis il y en avait même des rares, j'aurais dû les prendre.
Mais au moins, t'es resté dans deux couleurs.
Ouais.
Toi, tu penses que pour faire un bon deck de draft, il faut être deux couleurs?
Non, mais ça dépend des formats. Mais comme dans le cas de Guild of Ravnica, qui c'est axé sur les guilds, tu veux rester dans deux couleurs. Je vais donner des petits trucs, par contre, quand tu veux te sentir aventureux dans une troisième
couleur.
Let's
go, on est là pour éduquer.
Avant, j'aimerais un bon petit truc que moi j'utilise, c'est le bread, le pain.
Oui.
Donc le bread, ça, c'est quand tu choisis tes cartes. Tu vas, donc dès que tu ouvres un pack, la première chose que tu vas prendre, généralement, c'est la bombe.
Ouais.
Donc, c'est le B de bread.
La bombe,
c'est-à-dire la carte qui va être rare ou mythique.
Ok, tu veux quelque chose de fort.
Ben généralement, ou qu'il y a de la value, tu sais, c'est tout le temps parce qu'on veut jouer des cartes fortes, c'est ça qui est intéressant.
T'as besoin de quelque chose pour tuer.
Mais c'est sûr que c'est toujours tentant de. Fait que si quand tu ouvres ton pack. Ce qu'on appelle la bombe, qui est la 4 rare ou mythique.
Ben, c'était ça, c'était Doom machin.
Doom Whisperer.
Ouais.
Donc, tu vas prendre la bombe. Mais après ça, quand on te passe le paquet, la personne à ta droite te passe le paquet, là, tu vas, Brad, donc I, tu vas prendre un removal. Ça, c'est un bon petit truc parce que tu veux, en draft, tu veux jouer beaucoup de removal.
Puis tu veux enlever la bombe que l'autre, il vient de piger avant.
Ouais, donc des removals, c'est des instants ou des sorceries qui sont capables de tuer une créature de l'autre. Et ensuite, tu vas aller chercher une créature. Donc, Evasion, c'est une créature que tu vas être capable d'attaquer l'autre sans qu'elle soit bloquée. Donc, généralement, on va privilégier des créatures qui ont flying ou qui sont imbloquables. Mm-hmm. Et après ça, tu vas prendre la lettre suivante, c'est A. C'est une créature qui est forte quand elle attaque. Donc, généralement, des grosses créatures. Et finalement, D, Defend. Tu vas prendre une créature qui va pouvoir te bloquer. Donc, généralement, un gros toughness.
OK.
Un truc qu'il donne aussi, c'est quand tu as tes cartes devant toi, quand tu choisis tes cartes, la première question que tu devrais te poser, c'est quand je vais jouer cette carte-là, est-ce qu'elle va faire une différence? Mm-hmm. Puis ça, c'est une erreur que des gens font souvent en draft. C'est que tu sais la carte a l'air vraiment magique si tu l'assembles avec... tu te dis « Ah, je vais pouvoir faire ce combo-là, tu sais. Si j'ai la chance de pouvoir aligner telle et telle condition. »
Ouais, mais faut que tu penses à la carte comme elle toute seule.
Faut que tu penses à la carte comme elle toute seule. C'est pour ça que moi, finalement, en suivant ce truc-là, je me rends compte que plus je joue de draft, moins j'ai de moins en moins de 4 rares ou mythiques. Ce que je vais chercher, c'est la consistance. Comme par exemple, dans les drafts de Ravnica, tu vas vouloir jouer Boros, tu vas vouloir des créatures à bas casting cost. Qui attaque tout le temps, tu sais, ta créature elle arrive en jeu, puis.
Mais tu veux aussi des instants.
Qui font du removal.
Dommage. Parce que dans le rouge, c'est du dommage.
Mais éviter des cartes qui font gagner de la vie. Tu sais, comme un instant qui te fait gagner de la vie, ça change rien sur le board. Quand on dit le board sur la table, là, ça n'a aucun impact. Oui, tu sais, ça monte ta vie, mais comme ça, au final, ça n'a aucun impact.
Mais je te dirais, à moins que la carte. Donne vraiment beaucoup de points de vie. Il faut que ça fasse une grosse différence.
Il faut que ça fasse une grosse différence, mais faut pas juste qu'elle donne la vie. Il faut que ça vienne...
C'est ça.
Comme Dawn of Hope, qui est un enchantement dans Guild of Ravnica. C'est un enchantement qui coûte un colorless, un blanc. À chaque fois que tu gagnes de la vie, tu peux payer 2 pour piger une carte. Ça, c'est très rare dans le blanc que tu peux piger une carte. Ça vaut la peine. Parce qu'après ça, elle a un deuxième mode qui est tu payes 4 mana pour créer un lifelink. Une créature 1-1 lifelink. Fait que tu sais comme... elle a quand même du value. Ça vaut la peine à jouer dans un deck de Boros rapide.
Ouais, bon,
parce que tu vas manquer rapidement de cartes, puis celle-là te permet d'en piger.
J'aime bien les lifelink en draft, par contre. Parce que
oui, mais ça, les créatures lifelink. C'est ça, ça. Pas une carte qui donne la vie.
On dirait que la différence que ça creuse, oui, là, c'est genre plus 2, moins 2.
Moi, j'appelle ça le swing, là, exactement, ouais, plus 2, moins 2. C'est ça qui est bon là-dessus.
Ça devient que ça, ça s'empile quand même pas mal vite. Oui, on vient de finir le bread.
Ça, c'était le bread. C'est un petit truc. Sinon, pour votre choix de mana, moi, il y a un professeur de stochastique. C'est la science des probabilités en mathématiques. Il s'appelle Frank Karsten. Vous googlerez ça. Je vais le mettre en dessous de l'émission dans les liens. Lui, il a utilisé des théories mathématiques à Magic. Puis je les utilise, puis ça vaut vraiment la peine. Il s'est demandé, comme par exemple, il a fait un tableau, c'est combien de sources de mana tu dois avoir pour caster une couleur dans une probabilité de 90% au premier tour. Il donne par exemple, si tu veux caster au tour 1 ta couleur dans un deck de draft de 40 cartes, ça te prend 10 laines de la couleur de la carte. Il donne comme exemple aussi, par exemple, combien de laines tu dois avoir dans ton deck pour constamment jouer un laine à chaque tour dans une probabilité de 90%. Fait que, par exemple, il donne l'exemple que si tu as 17 dans un deck de draft, bien sûr, si tu as 17 laines à ton tour 2, tu vas avoir un 99% de probabilité d'avoir ton. Tu sais, si bien sûr tu as tes deux mains,
ouais, ben oui, ben
dans,
oui,
dans le truc. Fait que tu sais, comme si tu as 17 laines, qui est le ce que la plupart des gens font généralement. Donc, à ton tour 2, tu es sûr d'avoir tes deux cartes. À ton tour 3, tu as 91% de chance d'avoir ton troisième laine au tour 3, et ainsi de suite. Mais plus tu descends en bas de 17, plus la probabilité descend.
Ben oui,
c'est,
ben oui,
c'est dans l'optique que tu veux jouer au tour 5, ta carte qui a un casting cost de 5. Mm-hmm. Ben, pour te donner un exemple, si tu as juste 16 laines dans ton deck, au tour 5, pour jouer ta case de casting cost, tu as juste 64% de chance. Tandis que si tu joues 17 laines, dans 70% des cas, tu vas...
Mais explique-nous donc pourquoi il ne faut pas mettre trop de laines non plus. Parce que ça, c'est... En fait, c'est que ça, je pense que ça enlève de la consistance à la stratégie. Mais c'est sûr que tu vas pogner ton laine à tous les tours, mais t'en enlèves. Là,
C'est parce qu'à un moment donné, si t'as bien du gaz à mettre dans tes chars, c'est cool, mais si t'as pas de char, t'as plein de gaz pour rien.
Et voilà, gaz coûte cher. Puis après ça, il donne bâtir une courbe efficace là, dans deux couleurs. Il dit pour chacune de tes couleurs qui ont un casting cost de 3 à 5, tu vas vouloir minimum 8 laines de cette couleur-là dans ton deck. Par contre, si t'as, ça, c'est ce que je trouve intéressant. Si tu as des cartes d'un casting cost de 1 ou 2 ou de 5, à ce moment-là, cette couleur-là, faut que tu montes ça à 9 laines pour avoir une consistance.
Je comprends pas trop. Le 1, 2...
Parce qu'une carte qui a un casting cost de 1 ou 2, c'est-à-dire que tu veux la caster autour 1 ou 2.
OK.
À ce moment-là, dans cette couleur-là, tu vas augmenter un petit peu plus ton nombre de laines de cette couleur-là pour être sûr de pouvoir la caster autour 1 ou 2.
OK. Ça veut dire, mettons, 9 laines. Mettons, elle coûte un rouge, un colorless.
Ouais, ou un rouge.
OK. OK.
Okay. Puis là, il dit, ça devient dangereux, c'est quand tu as du double cost. Comme 3 couleurs, par exemple. Non, excuse. Mettons, tu as une carte qui coûte, il y en a beaucoup dans Guild of Ravnica, une carte qui coûte un colorless, couleur. Par exemple, un rouge. À ce moment-là, faut que tu montes. Il dit pour être sûr de pouvoir la caster au tour 3, lui suggère faut que tu mettes 10 laines de cette couleur-là.
OK.
Mais bien sûr, il prend en compte les. Tu sais, si tu as un double land, comme les tap land, les Gilgate, tu peux mettre ça sans problème, ça compte pour les deux.
Et voilà,
mais ce que lui veut dire, c'est le land qui produit cette couleur-là. Si tu veux pas te faire planter en draft, c'est une bonne base à suivre. Ensuite, il donne quelque chose de vraiment intéressant à propos des splashes, le splashing. Ça, c'est quand tu fais un deck de deux couleurs, mais que tu veux mettre deux ou trois cartes d'une troisième couleur.
À partir de quand c'est plus splashé, mettons? À partir de 4 cartes vertes dans ton deck bleu-rouge, c'est plus splashé, ça devient...
Non, c'est, je dirais au-dessus de 5 cartes, là, okay, tu commences avec 3 couleurs. Là,
okay.
Parce que tu sais, c'est des decks de 40 cartes. Mais splashé, là, c'est quand, par exemple, tu as une bombe ou un bon removal que tu aimerais mettre. Puis tu sais, c'est ce qui te manque, en fait, parce que souvent, en draft, c'est ça, c'est
Ouais, ouais, tu joues blanc bleu, mais t'as besoin de quelque chose pour tuer un monstre.
Fait que j'ai breakdown son article en ce que j'ai appelé mes 5 règles d'or du splashing. Parce que je suis pas un mathématicien, je suis juste superstitieux. Fait que je suis ces 5 règles-là. Donc, c'est ça, c'est respecter la courbe, comme j'ai expliqué tout à l'heure. De, par exemple, de tes cartes de, si t'as des cartes de 1 ou 2 casting cost, ben, tu veux avoir 9 sources
ça,
de cette couleur-là.
Plein de statistiques.
Ensuite, il dit carrément, là, éviter de splasher une troisième couleur dans un deck que tu veux aggro.
Okay.
Parce que tu vas briser ta consistance. Donc, tu splashes pas une troisième couleur là, si t'as des cartes là, ou aussi qui sont double couleur. Par exemple, si dans ton deck, dans tes deux couleurs principales, T'as
plein de cartes boroses, rouge, blanc, ben là,
trois colorless black, mais pas du vert, comme tu dis, parce que tu vas briser ta consistance, tu réduis tes chances de gagner. Tu peux le faire, puis tu vas gagner, mais tu réduis tes chances.
Là, on parle de probabilité.
On parle de probabilité, ouais, c'est ça. Là. Ensuite, il dit splasher seulement des cartes qui coûtent cher. Fait que tu splashes pas pour des cartes de casting cost 1 ou 2. Ouais.
Parce que tu veux avoir une carte forte qui va valoir la peine
ouais.
de splasher une
autre couleur. Parce que ce qu'il dit, la probabilité, c'est que rarement tu vas avoir ta troisième couleur de splash, elle va rarement arriver dans les trois premiers tours. C'est en fait, plus le tour avance, plus tu as la probabilité de finalement avoir le land qui te permet de le caster. Donc il dit, ta carte que tu splashes, faut que quand elle arrive en jeu, faut qu'elle fasse une différence, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il dit de splasher des removals ou des cartes vraiment fortes. Ensuite, il dit splasher seulement des cartes qui ont une seule couleur dans le mana cost, comme je l'avais mentionné. Donc, splasher pas. Je vais prendre l'exemple Doozer of Light, qui est une créature 3 colorless black, qui est une 5-5 noire. Splash pas ça si tu joues un deck de rouge et blanc. Ou un deck de bleu et vert.
T'as
besoin de deux noirs parce que tu veux la caster au cinquième tour. T'sais, dans cette optique-là, ça va pas arriver souvent. Bien sûr, t'as ce qui ça c'est splasher normal quand t'as pas de ce qu'on appelle le fixing.
Ouais, le mana fixing.
Le fixing, c'est par exemple.
Du spell vert pour aller chercher des lands.
Des Guildgate ou des cartes qui vont te permettre d'aller chercher dans le vert généralement, qui vont te permettre d'aller chercher des manas. Donc ça, à ce moment-là, ça t'augmente un peu plus tes probabilités. Là. Mais quand tu suis ces 5 règles-là pour ton splashing, généralement, ça va bien. Puis c'est ça. Puis là, il donne comme exemple pour les Guildgate. Mets pas ça dans un deck d'aggro parce que tu veux... Le tour 1, tu veux caster ta créature qui
des
lands
qui arrivent engagés.
Ouais, fait que c'est une autre raison de pas splasher en aggro.
Mais j'ai vu un spell vert, je pense, dans la dernière série, qui en a. Tu peux aller
chercher deux Guildgate.
Ouais, puis les mettre en jeu tap. Fait que c'est quand même bon.
Ça, c'est bon.
Ça pige.
Ouais.
Effectivement.
Puis en plus, je pense que c'est deux verts, deux colorless. Fait que c'est ta face.
Ah, faudrait vérifier. Je l'ai pas sous la main. Je pense que c'est trois colorless.
Ouais,
à coup de 4, je pense que c'est trois colorless.
Ouais,
un vert.
Ouais.
Ça permet d'aller chez deux Guildgate
ou deux
Basic Land ou un Basic Land, un Guildgate. En fait, cette carte-là a été mise dans le set pour jouer 5 couleurs.
Ah oui?
Ouais, donc il y a une légende urbaine. Là, ben, ça a été confirmé par les gens qui ont fait le set. Mais. Je sais pas exactement comment il est arrivé.
Une légende!
Ouh. Ouais, mais c'est ça. Mais si t'es capable d'avoir cette carte-là, puis d'autres fixings, et beaucoup, ça prend les Guildgate, là.
Puis là, tu l'entends murmurer dans la nuit. Non, continue.
Puis c'est ça. Finalement, il dit les Guildgate dans un deck mid-range, tu devrais pas en mettre plus que 4 des Guildgate. Puis dans un deck de contrôle, lui c'est vraiment simple. Là. Il n'y a aucune statistique dans son paragraphe. Il dit juste autant que possible. Parce que tu sais, généralement, contrôle, tu vas aller dans du 3 couleurs. Donc, c'est pas mal ça. Il donne une statistique intéressante sur les créatures qui font du mana, comme les Llanowar Elves.
Non, Jesus.
Là, tu sais, parce que souvent, souvent les gens ils vont compter leur Llanowar Elf comme une chose de mana.
Ben ouais,
comme
ben,
ils vont dire ben,
un land.
Je vais mettre juste 16 lands vu que j'ai un Llanowar Elf dans mon deck.
Erreur.
Puis tu sais, le bon vieux, tu sais, ceux qui jouent à Magic depuis longtemps, là, vous savez, là, ça date depuis 95, c'est le bon vieux principe de Bolt the Bird. Tu as déjà entendu ça, t'as mis Bolt the Bird?
Non, c'est Bird of Paradise,
tu veux dire? Si l'autre joueur joue un Bird of Paradise au premier tour...
Un peu, Bird of Paradise, c'est un vert, 0-1 oui, flying qu'on peut taper pour avoir le mana de la couleur qu'on veut. C'est une créature, bien entendu.
Puis là, si dans ta main, t'as un Lightning Bolt, Ben, à ton premier tour, là, tu vas te poser la question, est-ce que je garde mon Lightning Bolt Instant rouge?
Non, non, ben non, tu tues la source de mana qui vient d'arriver dans ta face. Là.
Ben, c'est ça. Fait que là, c'est un cas classique, là, de... Il y a des gros débats là-dessus, là. Est-ce que tu bolt le bird ou pas? Moi, je suis un partisan de...
Ben oui.
Tu le ralentis.
Ben oui, c'est ça.
Ben, en tout cas, notre mathématicien dit les créatures qui font du mana devraient juste être comptées comme un demi-lame. Puis, okay. Les cartes qui font scryer ou piger des cartes devraient être comptées comme des 1 quart de land.
Et voilà. Donc, 1 quart de land, hein, les cartes qui font scryer.
Scryer, oui.
C'est... OK.
Parce que ça te permet d'avancer plus vite.
Ben oui, si t'as besoin de land.
Scry, pour ceux qui sont nouveaux, la mécanique scry, c'est une carte qui a le scry 1, par exemple. Tu regardes la première carte sur ta librairie. Tu peux la regarder, puis si elle te plaît pas, tu la mets en dessous de ta librairie ou tu la gardes sur le top de ta librairie. Dans le fond, tu vas la piger au prochain tour. Et dans Guild of Ravnica, ils ont la mécanique Surveil, qui est une variante de Scry, sauf qu'au lieu de la... Quand tu n'aimes pas la carte, au lieu de la mettre en dessous de ta librairie, tu la mets dans ton graveyard.
Ah, c'est fort, ça. J'aime ça beaucoup.
Moi aussi.
Donc, si vous voulez plus... Si vous aimez ça, les mathématiques puis Magic, allez voir... Frank Karsten sur Google. Je vais mettre le lien
La l'émission. Stochastique.
Là. Oh, il y a plein de tableaux là, puis des probabilités. Puis c'est vraiment le fun. Moi, j'ai juste mes 4-16, hein, fait que je comprends fuck all.
Sinon, ben, on n'oublie pas le bread. On peut peut-être répéter. C'est la bombe,
Removal. Evasion.
Attaque,
défense.
Et voilà. Je pense que ça va être ça pour cette semaine. On vous remercie tout le monde. Merci beaucoup, Jason. On vient de parler de draft et tout. Merci beaucoup, François.
Au plaisir.
On espère avoir beaucoup d'autres de tes mimes sur notre page. Voilà, c'était le terrain basique pour cette semaine. Merci, Martin, à l'enregistrement. Incroyable. Il est heureux. Il checkait son téléphone tout le long. On le sent stressé, Martin. On revient la semaine prochaine avec sûrement la même équipe. Merci beaucoup de nous suivre. Écrivez vos commentaires, bien sûr, en bas. Partagez l'émission et tout. Vous êtes notre seule publicité. C'était Tommy Godette avec Jason, François et Martin. Bonne semaine!
Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercialicloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.